dont parle d'un enfer.
Un enfer vert, dit l'équipe, vert comme la couleur du maillot de Saint-Etienne, battu par Auxerre et relégué en Ligue 2. Mais ce mot enfer, qui fait aussi la une du Progrès, raconte surtout l'éruption de violente qui a saisi le stade Geoffroy Guichard après le match, quand des centaines de spectateurs ont envahi une pelouse saturée du gaz lacrymogène des CRS et des fumigènes des hooligans. Il a fallu défendre à coups de matraque le couloir des vestiaires où, me dit l'équipe, les joueurs avaient été conduits par les hommes vêtus en noir d'une société de sécurité privée. Et l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan, dans ses vestiaires envahis de fumée, comptait ses joueurs de peur qu'il en manque un. Le même Furlan confiait ceci: « J'ai envie de vous dire que cela n'existe que chez nous ». Alors, l'enfer local de Saint-Etienne hier soir devient un syndrome français et il s'ajoute au chaos, c'est le titre de l'Alsace, au fiasco, ce sont les du Parisien et de Libération, à la honte, c'est la une de la Dépêche, du Stade de France, samedi soir, pour la finale de la Ligue des Champions, Real-Liverpool. Carton rouge, titre Midi Libre. Nous en avons amplement parlé depuis hier et ce matin encore, mais lisez encore dans l'équipe, l'éditorial de Vincent Duluc, dans la Provence, celui d'Alexandre Jacquin, et sur les sites du Monde et de SoFoot, les textes de Jérôme Latta et de Nicolas Xismartoff. Et ces plumes du football, avec des mots glacés, fustigent l'incompétence, le mensonge, le déni, le mépris dont font preuve les autorités du football et de la République devant le match et plus largement devant les supporters. À force d'interdire les supporters en France, on ne sait pas quoi faire quand il en vient d'ailleurs le bannissement des maillots du Real et de Liverpool avant le match sur les Champs-Élysées vu de l'étranger était incompréhensible. Il n'y a pas eu un gramme de hooliganisme au Stade de France, simplement une désorganisation et des habitudes. Ensuite, on pourra, malgré tout, communier dans la joie auxerroise, dans l'Yonne républicaine, car après tout, Auxerre monte en Ligue 1, et on voit les joueurs bourguignons saluer leurs supporters dans un Geoffroy Guichard vide, tard dans la nuit et apaisé. On peut aussi se régénérer, heureux rugbymen, des pages que Sud-Ouest consacre aux Rochelais, qui hier défilaient pour leur titre européen. Tiens, Sud-Ouest, édition basque, fait sa une sur l'aviron bayonnais, vainqueur en demi-finale de Pro D2 d'Oyonnax. Notre honte est nationale, mais dans nos terroirs, la joie ne se trompe pas.
On parle aussi d'une agression.
Qui nous paraît aller à un classique, quand quatre mâles entourent une femme, l'insultent en Thermeville, essayent de la toucher et la femme doit fuir. Mais cette agression que rapportent les Échos a ceci d'étrange qu'elle s'est produite dans un monde parallèle, le métavers créé par Facebook. La femme agressée était un avatar, la projection d'une femme anglaise qui testait une version du métavers. Les agresseurs étaient des avatars d'hommes. Aucun corps n'a été profané, mais les âmes se violentent aussi. Pour mettre fin à l'agression, la testeuse anglaise a dû se débrancher. Elle décrit ce qu'elle a vécu comme un viol. Cette histoire n'est pas unique. Vous allez lire d'autres agressions virtuelles sur les Échos Start. Start, c'est le cahier des Échos, décliné aussi sur le web, qui prend l'avenir au sérieux et qui explore donc la vie en virtuel qui se construit dans un dossier d'utopie, de dystopie, de désir, d'angoisse, de folie redoutée. Mais avant même cela, Start nous dit la perversion au présent du monde virtuel où sévissent des loups en ligne, les crypto-bros, comme on les appelle dans ce monde d'anglicisme, les frangins cryptés qui ont trimballé dans le cybermonde les cultures machistes de la technologie et de la finance. Autrefois, voyez-vous, on moquait les geeks, ces jeunes hommes rivés à leur écran, incapables de la vie réelle, des reclus, des parias. Les voici aujourd'hui ivres de revanche, puissants comme des golden boys de la bourse. Du côté de l'avenir de la puissance, ils se voient comme des mâles alpha. Je dis que Meta Facebook imagine des solutions techniques pour rendre safe, rassurant son espace virtuel. On pourrait générer une bulle empêchant d'autres avatars d'approcher le vôtre à moins d'un mètre crypté. Je lis aussi que des féministes s'approchent de l'univers virtuel. On ne s'affranchit pas de la réalité qui est sordide à souhait. Tiens, lisez sur le site du Parisien comment un juge d'instruction a considéré qu'une jeune Norvégienne, retrouvée en mai 2019 à l'aube, brisée et en état de choc, était consentante quand, ayant suivi, après séduction mutuelle, un sapeur-pompier dans sa caserne, elle s'est retrouvée face à plusieurs militaires nus qui ont obtenu ce qu'en groupe ils exigeaient. Lisez aussi dans La Voix du Nord ce qu'est le harcèlement des femmes dans les casernes de pompiers du département. Mains aux fesses, menaces, brimades, violences, vol de photos intimes. Une jeune pompier volontaire s'est suicidée en 2020. Les pompiers soupçonnés d'avoir diffusé contre elle des vidéos à caractère sexuel ne seront jamais jugés. Les poursuites sont abandonnées car avant de mourir, la jeune femme n'avait pas porté plainte.
Et on parle enfin, Claude, de dilemme.
Dans Libération, qui raconte l'affrontement qui se joue en Gironde, où une forêt de pins de culture pourrait céder la place à un parc photovoltaïque aussi puissant qu'un petit réacteur nucléaire. On dit c'est qu'alors le débat entre l'amour des arbres et l'électricité verte est ce que l'avenir impliquera comme sacrifice. dans Ouest France. Grand journal régional, mais qui regarde au-delà de lui-même, on lit avec humanité le dilemme qui, en Ariège, oppose les défenseurs des ours et les bergers auxquels on a imposé ce nouveau prédateur. Lisa, jeune bergère, ne va pas rester avec ses moutons quand elle les mènera aux estives. Elle a peur, elle a la sensation de mener ses bêtes à l'abattoir. Dans Ouest France encore, rencontrer Améria, qui est aussi bergère et surveille ses chèvres à 75 ans, seule dans une montagne sacrée couverte de rochers. Elle est la dernière bédouine du mont Sinaï. Elle vit seule là-haut depuis 40 ans, quand tous les siens sont descendus dans la petite ville de Sainte-Catherine. Parfois, ses grands-enfants la visitent, mais après 3 jours, ils s'ennuient. Rien n'est plus vrai que cette femme, dont le nom, en arabe, désigne un arbre au moins centenaire.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.